Chapitre 30. Ses parents lui avaient proposé d'annuler leur projet et de passer l'après-midi avec lui. Monica devait aller au marché et Dick jouait au golf avec des relations d'affaires, mais Todd répondit qu'il préférait rester seul. Il nettoierait son fusil, tâcherait de réfléchir à toute l'histoire, essaierait de se remettre les idées en place. « Todd, » commença Dick, qui s'aperçut qu'il n'avait pas grand-chose à dire à son fils. Son propre père, pensa-t-il, lui aurait suggéré de prier. Mais les générations passent, et les Bowden n'étaient plus guère là-dedans. « Ce sont des choses qui arrivent, » dit-il sur un ton d'excuse, parce que Todd le regardait. « Essaye de ne pas broyer du noir. »« Ça ira très bien, » dit Todd. Quand ils furent partis, il emporta des chiffons et un flacon d'huile de vaseline sur un banc près des rosiers. Il retourna dans le garage pour aller chercher le 30-30 qu'il rapporta dans le jardin. Le parfum poudreux et sucré des roses lui remplissait les narines. Il démonta la carabine, la nettoya entièrement tout en chantonnant, sifflant même de temps en temps. Puis il remonta son arme. Il aurait pu le faire les yeux fermés. Son esprit s'évada. Quand il revint, 5 minutes plus tard, Todd constata qu'il avait chargé la carabine. Tirer à la cible ne lui disait rien, pas aujourd'hui, mais il l'avait tout de même chargée. Il se dit qu'il ignorait pourquoi. « Bien sûr que tu sais, Todd Baby, le moment, pour ainsi dire, est venu. » Et c'est alors que la petite sable jaune s'engagea dans l'allée. L'homme qui en sortit lui rappelait vaguement quelque chose, mais c'est quand il eut claqué la portière et commencé à remonter l'allée que Todd vit les baskets, des Keds basses et bleu clair. Le passé refaisait surface. Voilà qu'arrivait Ed Caoutchou, l'homme aux Keds.
« Salut, Todd. Ça fait longtemps. »
Todd appuya la carabine contre le banc et fit son sourire conquérant.
« Salut, Monsieur French. Qu'est-ce que vous faites dans ces quartiers sauvages et reculés ?»«
Tes parents sont là ?»«
Eh non. Vous aviez besoin d'eux ?»
« Non, »
dit Ed French, pensif, après un long silence.
« Non, je ne pense pas. Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux que nous en parlions tous les deux. Pour commencer, en tout cas, tu auras peut-être une explication parfaitement raisonnable pour tout ça. Pourtant, Dieu sait que j'en doute. »
Il sortit de sa poche revolver une coupure de journal. Todd sut ce que c'était avant même de la voir. Et, pour la seconde fois de la journée, il eut devant les yeux les deux photos de Dou Sander. Celle que le photographe des rues avait prise était entourée d'un trait noir. C'était assez clair. French avait reconnu son grand-père. Et maintenant, il voulait l'annoncer au monde entier. Il voulait accoucher la bonne nouvelle. Ce bon vieux Ed Caoutchou, avec son argot et ses putains de baskets. Les flics s'y intéresseraient beaucoup. Mais ils s'y intéressaient déjà, bien sûr. Maintenant, il le savait. La sensation de s'enfoncer avait commencé une demi-heure après le départ de Richler. C'était comme s'il avait plané très haut sur un ballon plein de gaz euphorisant. Alors, une flèche d'acier glacé avait percé le ballon. Et depuis, il sombrait régulièrement. Les coups de fil, c'était ça la vacherie. Ce putain de Richler lui avait glissé ça comme un paix sur une toile cirée.
« Bien sûr, » avait-il répondu, plié en quatre pour foncer dans le piège. Il en recevait un ou deux par semaine.
Qu'il débloque dans toute la Californie à la recherche de vieux nazis gâteux. Parfait. Sauf que la « belle » leur avait peut-être chanté une autre chanson. Todd ignorait si la compagnie du téléphone pouvait dire combien d'appels on recevait, mais Richler avait eu un de ses regards. Et puis il y avait la lettre. Devant Richler, il avait laissé échapper que la maison n'avait pas été cambriolée. Et le flic en avait sûrement déduit que si Todd le savait, c'était qu'il était revenu. Il ne pouvait pas y avoir d'autre explication. Ce qu'il avait effectivement fait, non pas une fois, mais trois. D'abord pour récupérer la lettre et deux fois pour chercher des pièces à conviction. Il n'y avait rien. Même l'uniforme SS avait disparu, jeté par Dou Sander à un moment ou un autre. Et puis il y avait les cadavres. Richler n'avait rien dit des cadavres. D'abord, Todd avait trouvé que c'était une bonne chose. Qu'il continue à chercher le temps qu'il se remette les idées en ordre, sans parler de son histoire. Pas d'inquiétude quant à la terre sur ses vêtements après avoir enterré le corps. Tout avait été nettoyé la nuit même. Il les avait mis lui-même dans la machine, comprenant très bien que Doucendeur pouvait mourir et que tout s'étalerait au grand jour. « On n'est jamais trop prudent, gamin, » comme aurait dit le vieux. Puis, peu à peu, il s'était rendu compte que ce n'était pas une bonne chose. Il faisait chaud, et dans ces cas-là, l'odeur devenait de plus en plus forte. La dernière fois qu'il y était allé, cela vous prenait à la gorge. La police se serait intéressée à l'odeur, sûrement, et en aurait recherché la source. Alors pourquoi Richler n'avait-il rien dit? Est-ce qu'il le gardait pour la bonne bouche? Est-ce qu'il lui réservait une sale petite surprise? Or, si Richler lui réservait de sales petites surprises, cela voulait dire qu'il le soupçonnait. Todd leva les yeux et vit qu'Ed Caoutchouc s'était tourné sur le côté. Il regardait dans la rue, alors qu'il ne se passait pas grand-chose. Richler le soupçonnait peut-être, mais il ne pourrait pas faire mieux. À moins qu'il n'y ait une sorte de preuve concrète reliant Todd et le vieil homme. Exactement le genre de preuve qu'Ed Caoutchouc pouvait lui apporter. Un type ridicule avec des baskets ridicules. Un type aussi ridicule mérite à peine de vivre. Todd toucha le canon du 30-30. Oui, Ed Caoutchouc était le maillon qui leur manquait. Il ne pourrait jamais prouver que Todd avait été complice d'un des meurtres de Doucendeur. Mais le témoignage de French leur permettrait de plaider l'entente délictueuse. Et est-ce qu'il s'arrêterait là? Oh non. Ensuite, il prendrait sa photo de remise des diplômes et irait la montrer au clochard du quartier de la mission. Peu de chances que ça marche, mais Richler était presque obligé d'essayer. Si on ne peut pas l'épingler pour une bande de clochards, on peut peut-être l'avoir pour autre chose. Et puis quoi? Un procès? C'est tout. Son père lui trouverait un tas d'avocats merveilleux, bien sûr. Et les avocats le tireraient de là, bien sûr. Trop de présomptions. Et il ferait trop bonne impression sur le jury. Mais de toute façon, sa vie serait foutue. Tout s'étalerait dans les journaux. Tout serait déterré et mis en pleine lumière comme les cadavres à moitié décomposés de chez Doucendeur.
L'homme de cette photo est celui qui est venu me voir quand tu étais en troisième, lui dit brusquement Ed en se tournant vers lui. Il s'est fait passer pour ton grand-père. Il s'avère maintenant que c'était un criminel de guerre en fuite.
Oui, dit Todd, le visage étrangement vide, comme celui d'un mannequin. Toute la santé, la vivacité, la vie même l'avait fui. Il ne restait qu'un néant terrifiant.
Comment est-ce arrivé? Demanda Ed.
Et peut-être pensait-il faire de cette question une accusation retentissante, mais il ne sortit qu'une voix plaintive, perdue, déçue.
« Comment est-ce arrivé, Todd ?»«
Oh, une chose en a suivi une autre, » dit Todd en ramassant le 30-30.
« Ça s'est passé comme ça.
Une chose en a suivi une autre. C'est tout. » Il poussa le cran de sécurité avec son pouce et braqua la carabine sur le conseiller.
Aussi bête que ça paraisse, c'est tout ce qui s'est passé. Il n'y avait rien de plus.
« Todd !» dit Ed en ouvrant de grands yeux.
Il fit un pas en arrière.
« Todd, tu ne veux pas... S'il te plaît, Todd, nous pouvons en discuter. Nous
Ce putain de boche et toi, vous en discuterez en enfer !»
dit Todd en appuyant sur la gâchette. La détonation résonna dans l'air immobile et brûlant. Ed French fut projeté contre la sable. D'une main, pour se retenir, il arracha un balai d'essuie-glace. Il le fixa d'un air imbécile pendant que la tache de sang s'élargissait sur le bleu de son pull à col roulé. Puis le lâcha et regarda Todd.
« Norma !»
murmura-t-il.
« Ok, » dit Todd. « Tout ce que tu veux, champion. »
Il tira une seconde fois. L'homme eut la moitié de la tête emportée dans un jaillissement d'os et de sang. Ed se retourna comme un ivrogne et tâtonna vers la porte du conducteur, répétant sans cesse le nom de sa fille d'une voix étranglée, de plus en plus faible. Todd tira encore, visant la base de sa colonne vertébrale. Et Ed s'écroula. Ses pieds tambourinèrent un instant sur le gravier, ne bougèrent plus.
« Pas facile à tuer, pour un conseiller pédagogique, » pensa Todd,
et un rire bref lui échappa. Au même instant, une douleur acérée comme un pic à glace lui transperça le cerveau et il ferma les yeux. Quand il les rouvrit,
Il ne s'était pas senti aussi bien depuis des mois, peut-être des années. Tout allait bien. Tout se tenait. Le néant quitta son visage, remplacé par une sorte de beauté sauvage. Il retourna au garage et prit toutes les cartouches qu'il avait, plus de 400. Il les mit dans son vieux sac à dos. De retour au soleil, il souriait, excité, les yeux illuminés, comme les garçons sourient à leur anniversaire, à Noël ou le 4 juillet. Un sourire évocateur de fusées, de cabanes dans les arbres, de signes et de rendez-vous secrets. Ou, comme après le match triomphal quand les supporters enthousiastes emportent les joueurs sur leurs épaules jusque dans la ville. Le sourire extatique des garçons qui partent à la guerre avec des seaux à charbon en guise de casque.
« Je suis roi du monde !»
lança-t-il d'une voix forte au ciel bleu tout là-haut, levant le fusil à bout de bras au-dessus de sa tête. Puis il le prit de la main gauche et alla vers cet endroit surplombant l'autoroute où la terre s'abaissait et où l'arbre mort lui ferait un abri. Il faisait presque nuit, 5 heures plus tard, quand ils le descendirent.
Vous venez d'écouter un livre audio publié par Audiolib.
Merci. Et à bientôt chez Audible.